Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
C'est 23.
Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant en moins de 60 minutes.
Et première entrevue sur une nouvelle manifestation de coucou militants antisanitaires qui se sont présentés devant une école de Montréal-Nord, l'école Henri Bourassa. Aujourd'hui, vous le savez, ces militants-là là, multiplient les coups d'éclat. On veut évangéliser, recruter des adolescents dans le mouvement anti-vax et anti-masque. Mais il y a une surprise qui attendait les manifestants. Il y a des parents d'élèves qui sont venus confronter les négationnistes à l'école secondaire Henri Bourassa. Un de ses papas s'appelle Raymond Filion, pardon, il est avec nous. Monsieur Filion, bonjour.
Oui, bonjour, Monsieur Lagacé.
Écoutez, content de vous avoir au micro. Racontez-nous ce qui s'est passé là ce matin.
Bien, ce qui s'est passé, ça a commencé en fin de semaine en tant que tel. Monsieur Amalega François, il a décidé de poster sur Facebook qu'il s'en allait faire une manifestation à l'école Henri Bourassa aujourd'hui, puis à l'école Louis Riel demain. Donc, sur plusieurs groupes anticonspirationnistes que je fais partie, il y a beaucoup de personnes qui se sont dit que ça n'a pas d'allure, qui continuent à faire ça, puis on devrait s'organiser pour aller contre-manifester devant eux autres.
OK, fait que là, vous vous êtes présentés là, ils étaient combien et vous étiez combien les contre-manifestants?
Je dirais qu'on était une dizaine de contre-manifestants, puis eux autres au maximum une vingtaine à peu près.
OK, ça a été pacifique ou ça s'est parlé un petit peu dans le nez?
Ça a été pacifique en tant que tel, mais ce qu'ils ont joué un peu, c'est de faire un peu d'intimidation, essayer de nous bousculer ou de nous faire fermer le clapet. Moi, j'avais un porte-voix,
okay.
Comme M. Amalega.
Vous aviez comme le leader anti-sanitaire, là.
Exactement. Je me disais, ça n'a comme pas de sens d'aller manifester devant eux autres, parce qu'avec son porte-voix, il va quand même pouvoir parler, de crier dans son porte-voix. Donc, j'ai dit, ben pendant qu'il parle, moi aussi, je vais parler. Donc, j'ai acheté un porte-voix pour aller le faire taire le plus possible. Là.
Votre but en y allant avec ses autres parents, là, confronter les manifestants antisanitaires devant l'école de votre enfant, le but c'était quoi?
Le but, là, c'est de dire qu'on est tanné de voir des manifestations devant les écoles de nos enfants. Ça comme pas sa place. Nous autres, ce qu'on n'arrête pas de dire, puis on est une méchante gang qui parle que de ça, c'est que au Québec, on a le droit de manifester, mais des manifestations, ça se fait dans les rues ou devant le Parlement ou devant les bureaux des députés. Donc, ça n'a pas d'affaire à se faire devant des écoles puis dans des hôpitaux. Puis, quand on a vu ce qui s'est passé à l'école Louis Riel, il y a une couple de semaines qui sont allés manifester devant l'école de la petite qui venait de décéder, ça a donné vraiment un haut le cœur à tellement de monde. Moi, je vois ça arriver régulièrement dans mon Facebook. Ça n'a pas d'allure. Il faut faire quelque chose. Il faut l'arrêter. Tu peux pas aller parler à des enfants, à notre avis.
OK. Et je sais que les contre-manifestants ont fait jouer très fort la fameuse chanson du groupe Survivor, Eye of the Tiger, hein, un des hymnes des films de Rocky. Pourquoi vous avez fait jouer cette chanson-là?
Mais c'est parce qu'il y en a un qui a dit, vu qu'il y a des droits d'auteur sur une chanson comme Eye of the Tiger, s'il y a du monde qui vont notifier Facebook qu'il y a un droit d'auteur qui est violé, le live se couperait automatiquement. Donc, c'est pour arrêter de laisser propager sa désinformation sur Facebook en coupant ses lives. Mais en fin de compte, on a vu que ça n'avait pas marché.
Ça n'a pas marché. Mais écoutez, moi, j'ai vu la même tactique aux États-Unis, puis des fois, les plateformes de médias sociaux ont retiré certaines vidéos parce que les droits n'avaient pas été payés. Hey, Monsieur Filion, félicitations surtout d'avoir fait ça pacifiquement. Je pense qu'il ne faut pas tomber dans le jeu de ces gens-là et en faire des martyrs. Bravo, salutations aux parents qui ont fait ça aujourd'hui.
Ben, merci beaucoup, puis bonne émission.
Merci, Monsieur Filion, un plaisir. C'était Raymond Filion, qui est le père d'une enfant qui va à l'école Henri Bourassa dans Montréal-Nord avec d'autres parents, mais est allé confronter les manifestants anti-sanitaires. Donc là, à Québec, on commence à en parler, on commence à se dire, écoutez, est-ce que ça devrait être légal, devrait être permis, ça, d'aller manifester devant des écoles pour dire aux enfants, faites-vous pas vacciner, le masque est dangereux, le vaccin va vous tuer. Est-ce que ça devrait être permis en temps de pandémie? François Legault lui-même aujourd'hui a annoncé que son gouvernement planchait sur un projet de loi spécial qui interdirait ces manifs antisanitaires. Il y a aussi l'opposition officielle, les libéraux, par la voix de la députée de Saint-Laurent, Marois Risky, qui a proposé un projet de loi qui interdirait ce genre de manif. Elle est au bout du fil. Madame Risky, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce qui serait interdit si votre projet de loi déposé aujourd'hui était adopté?
Toute personne qui désire manifester contre les mesures sanitaires, contre le vaccin, ne pourrait pas le faire à 50 mètres d'un terrain qui est un établissement primaire ou secondaire. Donc, ça inclut l'école primaire, l'école secondaire, mais aussi faut penser aux installations qui sont offertes des services scolaires, par exemple un gymnase, où est-ce que des fois on a des cours qui sont donnés en éducation physique. Et là, il y aurait aussi des amendes beaucoup plus salées et aussi ça donnerait du mordant, donc les policiers pourraient intervenir immédiatement et non pas comme la semaine dernière, attendre environ 45 minutes avant de finalement distribuer des contraventions pour le bruit. Ce problème, c'est pas juste le bruit qu'ils font, là, c'est qu'ils donnent de la mauvaise information aux jeunes, ils les intimident, ils les haranguent. Alors ça suffit. Alors maintenant, je veux que l'Assemblée nationale d'une seule voix dise les manifestations anti-vaccins, anti-sanitaires au Québec, aux bord des écoles, c'est non.
Vous niaisez pas avec le POC dans les amendes qui sont suggérées. Vous parlez d'une fourchette qui irait de 1 000 à 125 000 $. Expliquez-nous qu'est-ce qui serait sanctionné.
Alors, j'ai pris au fond les amendes qui existent déjà pour, par exemple, les passeports vaccinal. Donc, pour une personne, un individu qui participe, ce serait entre 1 000 à 6 000 $. Et pour la personne qu'on sait très bien organise toujours les manifestations via les réseaux sociaux, ce serait pour l'organisateur entre 25 000 à 125 000 $ pour avoir organisé une telle manifestation. Et en cas de récidive, les montants seraient doublés.
Avez-vous demandé un avis juridique sur la légalité de tout ça? Parce que j'ai lu le projet de loi. Et ce que vous suggérez, c'est de sanctionner des gens qui diraient aux jeunes « Allez pas vous faire vacciner ». Écoutez, il me semble, Mme Risky, je vais me faire l'avocat des antisanitaires, puis ça me fait mal de le faire, là, mais il me semble que dans une société de droit, on peut dire aux gens qu'ils ne devraient pas se faire vacciner.
Bien, premièrement, je suis moi-même avocate et j'étais aussi professeure de droit et j'ai enseigné aussi à l'École du barreau. Alors là-dessus, j'ai consulté d'autres avocats, effectivement, mais je me suis inspirée d'une loi qui existe déjà depuis 2016. Celle qui empêche ceux que moi j'appelle les anti-choix, donc ceux qui se disent, eux, pro-vie, qui vont manifester devant les cliniques d'avortement. Ils n'ont pas le droit de le faire. Ils doivent respecter une limite de 50 mètres. Alors, il y a déjà un précédent québécois et je pense qu'il y a suffisamment d'espace au Québec pour manifester ailleurs que devant des mineurs. Je rappelle qu'ils sont allés devant une école primaire. Mais je demande aussi une autre affaire en attendant, parce que moi, je demanderais qu'on siège dès maintenant sur ce projet de loi. On est capable de le faire adopter par voie spéciale dès cette semaine. Mais il y a déjà des manifestations qui sont annoncées dans d'autres écoles. Le gouvernement peut mandater les avocats de l'État pour aller chercher une injonction devant le tribunal pour empêcher, en attendant l'adoption de ce projet de loi, une injonction pour empêcher les manifestations devant nos écoles.
Bien, le débat est lancé. Je pense que ça rejoint plusieurs citoyens au Québec, Mme Risky. Merci de nous avoir parlé aujourd'hui.
Merci à vous.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin,
celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Patrick Lagacé en accéléré.
Voter plus d'une fois, est-ce que c'est possible au Canada? Ben, il semble que oui. Des journalistes du quotidien Métro ont répondu à l'invitation d'un citoyen qui affirmait hier que c'est facile de voter plusieurs fois dans la même circonscription. Ben, les deux journalistes, Naomi Galper et Lily Boisvert, étaient curieuses. Elles ont suivi le monsieur qu'elle n'identifie pas. Elle connaît son identité, mais évidemment, la transaction ici, c'était, je vais vous expliquer comment ça marche, mais vous pouvez pas dire qui je suis. Le titre de leur article dans Métro aujourd'hui dit tout. Voter 15 fois, c'est possible au Canada. On l'a vu de nos yeux. Lily Boisvert est au bout du fil. Salut Lily.
Bonjour.
Donc, je le précise, le gars n'a pas voté 15 fois. Il vous a montré comment faire. Qu'est-ce qu'il vous a montré?
En fait, la personne s'est rendue dans 15 bureaux électoraux, suivie par la journaliste Naomi Guelpard du journal Métro, qui a été témoin de tout ce que cette personne a fait. Donc, la personne s'est rendue au bureau de vote, a demandé à être inscrit sur la liste électorale, on le laissait faire, et ensuite on l'invitait à se rendre à l'urne, à l'isoloir pour voter. La personne ne l'a pas fait, elle quittait le bureau de vote rendu là. Donc c'est ce qu'on avait dit en amont du test qu'elle voulait faire, qu'elle ne voterait pas, parce que le simple fait de se rendre jusque là montre qu'il y a bel et bien une faille dans le système. Moi, cette personne-là m'avait contacté au déclenchement des élections fédérales en me disant connaître quelqu'un qui avait voté une première fois en 2015 quatre fois, qui avait repéré cette faille-là dans le système. Elle a fait le test quatre fois, ça a marché. Elle, cette personne-là, a bel et bien voté quatre fois. Et aux élections de 2019, elle a répété l'expérience, elle a voté cette fois-là 15 fois. Et cette personne n'a jamais été inquiétée, n'a jamais été appelée. Personne ne lui a dit qu'elle allait avoir des conséquences à ses votes multiples. Donc, la personne qui m'a contactée, moi, au déclenchement des élections fédérales, voulait voir si c'était vrai, voulait voir si c'était possible et voulait que les médias en parlent, surtout.
OK. Quelques questions, Lily Boisvert. Premièrement, ça semble facile de faire ça.
Oui, c'est sûr que la personne a menti, donc la démarche comporte un mensonge. Et là, je peux pas donner tous les détails parce que je veux pas avoir l'air d'inciter les Canadiens à la reproduire, à reproduire la fraude. Il y a un mensonge, mais le mensonge n'est pas l'identité de la personne, parce que l'Élection Canada dit qu'il ne faut pas mentir sur son identité quand on veut voter. La personne, 15 fois de suite, a donné son véritable nom, sa véritable identité. Et même ce que la journaliste Naomi m'a dit, c'est qu'à un moment donné, littéralement, les deux bureaux de vote où ils se sont rendus étaient côte à côte dans des bâtiments à des adresses
contiguës. Côte à côte. Ouais, okay. Lily, est-ce que les 15 tentatives de vote là, qui auraient pu être couronnées de succès, c'était dans la même circonscription?
Oui, c'était dans la même circonscription. Okay. Une circonscription de Montréal. On ne va pas dire laquelle, justement, pour éviter des répercussions négatives pour la personne qui a fait le test.
Je crois comprendre que tout ça est possible. Puis je le répète, Lily, là, vous allez pas dire c'est quoi le stratagème pour encourager les gens à le faire, mais tout ça est possible parce que les listes électorales sont pas informatisées.
Exact. D'une part parce que au fédéral, on peut s'inscrire le jour même du scrutin sur la liste électorale, ce qu'on ne peut pas faire au Québec. Et moi, c'est ce que ma source m'expliquait quand elle me disait à quel point c'était simple au fédéral de frauder. C'est que après le dernier référendum au Québec, on a modernisé les règles électorales pour que ce ne soit pas possible de s'inscrire le jour même des. Mais au fédéral, ce sont des règles qui datent de longtemps, qui n'ont pas été modernisées. Donc, parce qu'on peut s'inscrire le jour même et parce qu'il n'y a pas de système informatique qui signale quand une personne a voté plus d'une fois, c'est très facile, en fait, de tout simplement se rendre à un bureau électoral, de dire qu'on n'a pas encore voté, qu'on veut s'inscrire sur la liste, qu'on n'y est pas inscrit. Et à ce moment-là, on se fait montrer l'isoloir si on ment. Un petit peu. C'est sûr qu'il y a un mensonge qui est dit.
C'est quand même un peu inquiétant ce que vous décrivez dans votre article aujourd'hui dans votre.
Oui, parce qu'on se pose la question après combien d'autres Canadiens sont au courant de cette faille-là et surtout c'est qu'on se dit que le système est aveugle et c'est ça que Élection Canada m'a rappelé aujourd'hui de m'envoyer un courriel pour me dire que ce sont des gestes illégaux, qu'on ne peut pas mentir pour voter plusieurs fois, mais le fait que le système ne voit pas les doublons comme ceux-là, le fait qu'il y a il n'y a pas de filet de sécurité, en fait. Mmh. Donc oui, on se pose la question, combien font ça comme l'ami de ma source? Combien d'autres personnes votent de multiples fois?
Inquiétant, c'est très intéressant. On peut lire ça aujourd'hui, Lily Boisvert, sous votre plume dans le journal Métro. Voter 15 fois, c'est possible au Canada. On l'a vu de nos yeux. Et c'est un article qui a été écrit en collaboration avec Naomi Galpert. Félicitations. Merci, Lily.
Merci. Bonne journée.
Salut, la journaliste Lily Boisvert. Salut, Luc.
Salut, Patrick.
Il y a une source qui m'a dit que tu as été très gentil hier avec le personnel d'élection. Les gens étaient très contents de te voir.
Ben écoute,
voilà.
C'est fun d'entendre.
Des sources partout.
Écoute, il y a des micros partout à cette heure.
Ben oui, on peut plus rien faire.
Eh, misère.
Tu peux plus.
Ben écoute, j'ai bien aimé ton petit wrap-up, ton petit résumé des élections. T'aurais pu rajouter aussi que le taux de participation était famélique, 58,4%. Oui. L'as-tu dit, peut-être?
Non, je l'ai pas dit.
OK, mais en tout cas, ça fait partie aussi des analyses qu'on va faire. Moi, j'aimerais revenir sur une de tes observations qui est peut-être sur laquelle une de celles pour lesquelles tu as mis le plus d'emphase. Ce sont les néo-démocrates. Tu dis, à quoi ça sert les néo-démocrates à part de se faire voler des idées? Ben, effectivement, moi, je suis abasourdi. Il y avait deux candidates néo-démocrates que je suivais, puis je me disais, il me semble que elles vont gagner.
Qui
ça? Nima Machouf, sur le plateau Mont-Royal, dans Laurier-Sainte-Marie, puis Hélène Wood-Brosseau, bien entendu. Mm-hmm. Pourquoi? Tu sais, bon, Nima Machouf, elle a été la voix de la raison dans la pandémie on l'a entendu toutes les semaines sur tous les micros. Elle a été à la fois pragmatique, experte, rassurante, puis conviviale en même temps. Donc, elle a bénéficié d'une immense tribune préélectorale, si je peux dire. C'est aussi la femme de Amir Kadir. Donc, des racines très, très fortes dans le quartier. Elle connaît tous les organisateurs politiques, puis beaucoup de gens l'adorent. Puis, Hélène Wood-Brosseau, cette espèce de personnage plus grand que nature.
De sympathique ovni.
Ben oui. Puis, tu dis, si ces deux-là perdent, je ne penserais pas qu'il y en a bien d'autres qui vont gagner. C'est-à-dire, je vois pas comment on peut faire mieux qu'une de ces deux-là.
Ben, il y a juste Boulris qui a gagné dans Rosemont. Puis, tu sais, on peut se poser la question, Luc, à l'échelle du Canada, ils ont quoi? Ils ont même pas 30 députés, je pense.
Ils ont 25.
Puis, 25 députés.
25, ce qui est un de plus que la dernière fois. Donc, le même nombre qu'en 2019, ils ne progressent pas. Tu sais, il y avait eu 44 à l'époque de Mulcair, il y avait eu encore beaucoup plus à l'époque de Jack Layton. Mais depuis, ça ne progresse pas. Puis le porte-parole, tu sais, le chef du parti, sympathique, énergique, chaleureux, drôle.
Tu veux manger une poutine avec lui?
T'as-tu déjà mangé une poutine?
Tu veux manger une poutine?
Oui,
avec
c'est ça, c'est ça.
Ouais, c'est ça.
Puis écoute, tout le monde qu'elle rencontre le trouve fantastique. Nathalie Normandeau l'a croisée l'autre fois au micro, au studio, puis elle a dit « Mon Dieu, quel gars gentil, etc. » Fait que, même chose, c'est, si lui dirige pas, ben si lui obtient ce score-là, qui va obtenir plus? Et donc, je me pose la question, ben pourquoi est-ce que ça plafonne? Pourquoi ça avance pas? Plusieurs hypothèses. Premièrement, il y a la peur des conservateurs, bien entendu. Donc, on fait un vote stratégique. Quand à la dernière minute, on se dit « Est-ce qu'on va voter pour les oranges? » Ben, on se dit non, parce que ça pourrait faire rentrer les conservateurs. On va mettre toutes nos billes dans le Parti libéral. Deuxièmement, l'impression que leurs positions sont irréalistes. Mais dans le fond, tu sais, les positions du NPD, ça devient les positions du Parti libéral quelques années après, ou des fois...
Mais ça se peut-tu, que... OK, on aime les positions du Parti néo-démocrate, mais on leur fait pas confiance pour les implanter?
Ça se pourrait, mais à ce moment-là, on peut se poser la question de savoir, est-ce qu'on fait confiance aux libéraux? Tu sais, parce que Ils ont fait exploser le déficit, mais de façon... c'est un feu d'artifice, là. Je veux dire, beaucoup plus que dans les autres pays de l'OCDE. Tu sais, l'augmentation du ratio dette-PNB, dette-produit national brut, a été beaucoup plus élevée ici que dans les autres pays qui ont tous fait face à la même pandémie. On a beaucoup plus dépensé au Canada que dans les restes des autres pays du monde pendant la pandémie. Puis, tu sais, il y a des propositions des fois qui sortent de la gauche, comme le salaire minimum à 15$. Tout le monde, mon Dieu, mais c'est impossible! Puis, 3 mois plus tard, les gens sont obligés d'offrir 18$ de l'heure parce qu'il y a une pénurie d'emploi. C'est ce qui se passe actuellement. Tu sais, des déclarations aussi sur la lutte à l'évasion fiscale. Il faut absolument faire quelque chose. Non, c'est impossible. Mais tout de suite après, on voit que le gouvernement libéral investit beaucoup dans l'Agence du revenu du Canada parce que les sommes qui nous échappent sont trop grandes. Mmh. Alors moi, je pense pas que c'est juste le programme. Puis je pense pas que c'est juste le vote stratégique. Je pense que j'ai une autre hypothèse. Puis je vais faire une comparaison avec ce qui se passe aux États-Unis. Aux États-Unis, la gauche, Bernie Sanders, Elizabeth Warren, Ocasio-Cortez, n'ont pas quitté le Parti démocrate. Puis ils l'ont forcé à prendre un énorme virage à gauche. Le virage à gauche est commencé aux États-Unis progressivement là, depuis 25 ans à peu près. Il y a plein de statistiques qui t'indiquent que les démocrates, avant, c'était un parti de liberals. Puis là, maintenant, c'est un parti beaucoup plus à gauche.
Luc, je vais te corriger un petit peu, si tu permets. Là. Il y a des forces très à gauche, mais je veux dire, ce parti-là était quand même au centre. Mais ce que tu dis, c'est que l'aile NPD du Parti démocrate est dans le Parti démocrate.
C'est ça. Puis que progressivement, elle a réussi à exercer une influence. Donc, de Carter à Clinton, à Obama, à Biden, ça a toujours été à virer un peu vers la gauche. Et que ça ne peut pas se produire, évidemment, ici, puisque le NPD est un parti distinct du Parti libéral. Puis la même question se pose avec avec Québec solidaire. Tu sais, Québec solidaire, en tant qu'entité libre, est-ce qu'un jour va prendre le pouvoir? Parce que on le voit, là, regarde, là, en ce moment, même avec tous les partis qui sont à plat au Québec, le Parti québécois et le Parti libéral, il y a Québec solidaire, s'en sort pas tellement mieux. Ben oui, ils ont progressé un peu, mais ils restent tout le temps dans le range 12 à 20 de l'électorat. Puis quand arrive le jour du vote, c'est entre 12 et 14. Fait que moi, je me pose la question, est-ce qu'un jour, il va avoir un Québec solidaire ou est-ce qu'il va y avoir un NPD élu? Je pense que non. Et puis, à ce moment-là, est-ce que la gauche devrait faire une union avec un parti plus majoritaire puis tenter d'exercer de l'influence dans ce parti majoritaire comme c'est le cas aux États-Unis, avec des gains, là, parce qu'aux États-Unis, tu as vu que le programme de relève économique, mais en même temps qui est un programme d'aide aux familles défavorisées, c'est 3 500 milliards de dollars. Là. Tu peux pas avoir plus à gauche que ça. Là. Fait que ils ont réussi ça, la gauche, aux États-Unis. Est-ce que notre gauche est capable de réussir ça ou elle est promise à une marginalisation?
Écoute, notre gauche, Luc, va peut-être vivre le même dilemme que la droite il y a 15 ans au Canada. Tu sais, t'avais le Reform, t'avais l'Alliance canadienne. Toute la droite a fusionné parce qu'ils savaient qu'ils allaient jamais gagner.
Bonne analogie. Puis là, il se passe quoi? Il se passe que cette droite-là, plus raisonnable, génère un petit parti populaire canadien qui, lui, est à 5 % de gens qui veulent vraiment pas être dans cette droite unifiée. Là.
Je reviens à Jagmeet Singh. Au-delà des idées, penses-tu que le fait qu'il soit d'origine indienne, qu'il porte un turban, ça lui nuit au Québec et ailleurs?
C'est dur de parler pour les autres. Là. Moi, au début, j'avais dit « Ah, tiens, c'est quand même bizarre. » Cette espèce de gomme effacée, des fois, qu'il y a sur la tête. Quand il met son turban rose, ça a l'air d'une gomme effacée. Mais moi, je l'adore. Je dois te dire ce que je veux, je l'adore. Mais avec le temps, ça n'a plus aucune importance. Surtout quand tu le rencontres, ça n'a aucune importance. Je veux dire, ce gars-là, c'est le plus charmant. C'est l'homme politique le plus charmant. Là. Et d'ailleurs, les gens lui rendent. Quand il va dans une foule, quand il va sur un plateau de télévision, quand il va partout, il se fait automatiquement des amis auprès de tout le monde. Puis je pense que ça dis-moi si c'est vrai, je le sais pas, là. Je trouve que ça perce à travers l'écran. Parce que moi, je l'ai vu de l'autre bord de l'écran, j'étais à côté des caméras avec lui, là.
Ouais.
Mais je trouve que ça perce à travers l'écran.
Tu trouves que son côté très sympathique, ça reste pas dans le studio.
Oui,
ça vient dans nos salons.
Oui.
Ouais.
Je trouve ça, moi. Puis je pense que les Canadiens sont hyper ouverts à cette réalité-là et que s'il y a des gens qui veulent pas voter pour lui, pour cette raison-là, de toute manière, il n'aurait pas voté pour les démocrates, pour NPD.
Pour le NPD.
Je pense pas. Je pense que c'est beaucoup plus profond que ça. C'est que la gauche est mise à émettre des idées assez fermes sur l'évasion fiscale, sur les soins dentaires, sur le revenu minimum garanti. Et qu'on a peur. On a peur en se disant, non, on veut pas aller jusque-là. Et si cette gauche-là était à l'intérieur d'un parti, les mêmes idées seraient un peu filtrées, seraient un peu, il y aurait une osmose qui se ferait avec les partis, avec les idées plus mainstream, et elle serait un peu peut-être amenuisée. Puis peut-être que la gauche arriverait plus à passer ses idées de cette façon-là. C'est une hypothèse, je la mets sur la table.
Merci, Luc, on se retrouve demain.
À demain.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici,
très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Patrick Lagacé en accéléré.
OK, parfait. Un sujet éminemment plus sérieux, la qualité du français, on le sait. Ce qui nous distingue Québécois en Amérique du Nord, c'est que nous sommes des Français, des parlants français, des locuteurs français. Et c'est le socle de notre culture. Et si vous parlez aux profs, si vous connaissez des profs qui sont au cégep, à l'université, ben il y a de fortes chances que ces gens-là vous disent leur désarroi devant la piètre qualité, bien souvent, du français écrit chez beaucoup d'étudiants étudiantes. C'est évidemment le résultat d'un parcours scolaire au primaire, au secondaire, où on fait passer les élèves et ils arrivent au cégep, ils arrivent à l'université, ils ont des difficultés à ce point où ce qu'on appelle l'épreuve uniforme de français pour avoir son diplôme collégial, mais il y a beaucoup d'étudiants et étudiantes qui peinent en orthographe. Là, il y a 25% qui n'obtiennent pas la note de passage pour l'épreuve qui touche l'orthographe. On va parler immédiatement de ça avec Philippe Lorange. Il est étudiant à la maîtrise en sociologie à l'UQAM, signait un papier très intéressant aujourd'hui, l'antidote au désastre de l'école. Et on va parler avec Suzanne Chartrand, qui est didacticienne du français. Elle a notamment enseigné pendant 20 ans aux futurs professeurs. Bonsoir à vous deux.
Oui, bonjour.
Écoutez, d'abord, on va commencer par le titre de votre texte, Philippe Lorange, l'antidote au désastre. Je donne le contexte aux gens, c'est que la Fédération des cégeps de Montréal là, a dit, écoutez, pour aider les étudiants qui ont de la misère, on devrait leur permettre d'utiliser à cette épreuve-là le logiciel Antidote, qui est un logiciel de correction. C'est une idée qui a été torpillée. Comment vous avez réagi quand vous l'avez entendu la première fois?
Mais c'est certain que, comment dire, ça participe à un grand mouvement général vers le nivellement vers le bas, qui consiste toujours à s'adapter à l'élève et non à exiger que l'élève fasse plus d'efforts pour s'adapter au système en place. Donc, je ne peux pas me dire surpris, malheureusement, mais très certainement déçu.
Suzanne Chartrand, Philippe Lorange parle de nivellement par le bas. Comment ça se manifeste avant que les étudiants et étudiantes arrivent au cégep et à l'université?
Ben, ça se manifeste depuis plus de 30 ans par l'épreuve de 5e secondaire de français, qui est une passoire, comme d'ailleurs l'épreuve uniforme de français. Et c'est pas juste pour l'orthographe, c'est pour la syntaxe, c'est pour le vocabulaire, c'est pour la ponctuation. Les éléments relatifs à la langue écrite sont minorisés de façon importante dans la note de l'épreuve uniforme de français, comme dans l'épreuve de 5e secondaire depuis 1987, qu'elle est publique, qu'elle est officielle et obligatoire. Et comment se fait-il que tous ces élèves de 5e secondaire se retrouvent, pour un bon nombre d'entre eux, dans les centres d'aide de français parce qu'ils sont absolument incapables de rédiger minimalement un texte correctement, même pas correctement, minimalement correctement, je dis, et comment se fait-il que les élèves qui sortent du cégep arrivent à l'université et que les centres d'aide de français sont pleins à déborder dans toutes les universités du Québec parce que ces étudiants-là n'arrivent même pas à écrire convenablement un texte dans la discipline dans laquelle ils sont. Donc, ça veut dire que au Québec, et on le sait, je le dis depuis plus de 30 ans, les examens qui doivent attester d'une maîtrise normale, suffisante du français écrit, sont des passoires et n'attestent absolument pas cela. Madame, et ça, on le sait politiquement depuis très longtemps.
Madame Chartrand, vous avez enseigné pendant 20 ans aux futurs enseignants. Si vous aviez un mot pour, disons, illustrer la qualité du français écrit de ces gens-là que vous avez côtoyés, ce serait quel mot?
J'ai toujours dit qu'il y avait trois sortes d'étudiants dans mes classes. Il y avait des étudiantes, parce qu'elles sont massivement des étudiantes, brillantes et qui s'intéressaient à la langue, à la littérature. Mmh. Et donc, il y avait déjà des compétences tout à fait correctes et puis qui étaient intéressées à les développer. Il y en avait des médiocres, mais qui, avec des profs exigeants, font des progrès. Et il y en avait qui étaient qui auraient jamais dû entrer à l'université parce qu'ils avaient ni l'intérêt pour la langue et ils voulaient devenir enseignants français, ni les compétences langagières en lecture et en écriture, et même en conversation orale. Et je me demandais comment ça se fait qu'ils étaient là, et quand je leur demandais au premier cours pourquoi vous vouliez enseigner le français, ils disaient parce qu'on aime le français. Qu'est-ce que ça voulait dire pour eux? Aimer le français, ça voulait strictement rien dire, parce qu'ils ne le connaissaient pas.
Philippe Lorange, dans votre texte publié dans la presse aujourd'hui, vous écrivez, il était déjà connu depuis longtemps que cet examen, on parle de l'examen qui...
L'épreuve uniforme.
Exactement, l'épreuve uniforme à la fin du cégep, comme à peu près tous les autres qui jalonnent le parcours d'un jeune Québécois, est une farce monumentale où les passe-droits font loi. Est-ce qu'on donne des diplômes à des gens qui ne maîtrisent pas la langue au Québec?
Malheureusement,
bien sûr.
Oui, absolument. Malheureusement, parce que ce qu'on constate, c'est qu'il y a un illettrisme très fort, là, même à l'université, à tous les niveaux. Puis, de manière beaucoup plus générale, c'est pas juste une connaissance, c'est pas juste une question de la maîtrise du français, c'est aussi une question de maîtrise des connaissances tout court. Donc, on a des étudiants, par exemple, en sciences humaines, qui n'ont pas lu beaucoup de livres sur les sciences humaines. On a des gens dans toutes sortes de domaines qui ne connaissent quasiment pas leur propre domaine. Donc, on voit que c'est un problème qui est beaucoup plus généralisé que la simple maîtrise du français. C'est vraiment un isolement par le bas qui est tout à fait généralisé. Et à mon avis, ça tient tout simplement d'une philosophie de l'éducation qui essaie de mettre l'élève au centre et ses projets, son authenticité, qu'on va dire. Et ça, ça se fait par le procès du cours classique, de l'idée qu'il faut transmettre des savoirs. Alors qu'à mon avis, il faut trouver un juste équilibre entre le cours classique d'autrefois, qui essayait de faire entrer tout le monde dans un moule, et l'école d'aujourd'hui, qui est l'autre extrême, où on essaye de trop développer le moi créateur, le génie créateur de l'enfant. Ce qu'il nous faut trouver, c'est un juste équilibre entre, pour trouver justement l'élève qui apprend des savoirs, puis qui apprend à maîtriser son français.
Madame Chartrand, vous avez bondi quand j'ai posé ma dernière question à Monsieur Lorange.
J'ai écouté M. Lorange, je suis en accord à 98% avec ce qu'il dit, à savoir que ce qui est au centre de l'éducation actuelle, de la petite école jusqu'à l'université y compris, combien de mes collègues de ont des étudiants au doctorat et se plaignent, que ce soit en mathématiques, en chimie ou en littérature, et se plaignent de l'incompétence langagière de leurs étudiants doctorants, et corrige eux-mêmes les thèses avant
même,
les
même au doctorat, je m'excuse de vous interrompre.
Mais c'est sûr. Oui, même au doctorat. Parce que ça n'intéresse personne. Parce que c'est n'est valorisé nulle part, ni dans les classes. Demandez à un enfant de sixième année primaire ou de troisième secondaire combien de textes complets il a écrit, que ce soit d'un paragraphe ou d'une page dans son année. À peu près jamais. Ils écrivent 4 fois par année pour l'examen obligatoire. Et c'est le prof qui corrige, c'est pas l'élève qui apprend à se corriger. Antidote, moi, je l'utilise depuis que ça existe. C'est un bon correcteur. Sauf que pour l'utiliser intelligemment et avec succès, il faut connaître déjà énormément de choses dans la langue, dans la ponctuation, dans la syntaxe, dans l'orthographe. Sinon, on n'est pas capable. Je veux dire, il corrige des choses très bien et il nous propose des corrections complètement absurdes. Donc, c'est pas un outil pour des analphabètes, Antidote. C'est pour des gens déjà très compétents. Et moi, dans mes cours, les étudiants étaient obligés d'utiliser Antidote pour et me mettre en note de votre page. Antidote ici a fait telle correction correcte et m'a proposé telle correction qui était incorrecte pour qu'ils apprennent à débusquer les failles d'Antidote. Mais de présenter ça dans l'épreuve uniforme, c'est encore une façon de niveler par le bas et d'essayer non pas ce qui est le but maintenant d'éducation, c'est la réussite. Ça veut dire diplômé. Ouais. C'est pas la culture, c'est pas l'intelligence, c'est pas le sens civique. Et comme monsieur disait tout à l'heure, je veux dire, on peut entrer à l'université en sciences sociales, en sociologie, puis pas avoir lu de sociologie, puis en philosophie, puis pas avoir lu de philosophie, puis en littérature, pas avoir lu de littérature.
C'est déprimant. Écoutez, c'est tout le temps que j'avais. Je suis désolé, mais écoutez, je vais vous réinviter tous les deux, probablement individuellement. Je pense que c'est important d'en reparler. On peut bien parler de protection du français, mais si même nos universitaires ne savent pas bien écrire, accorder des mots très simples, ben c'est un peu angoissant. Merci beaucoup à vous deux.
Merci, bonne soirée.
Salut. Philippe Lorange, étudiant à la maîtrise en sociologie, signait un texte aujourd'hui. L'antidote au désastre de l'école dans la presse, c'est Suzanne Chartrand, didacticienne du français.
Patrick Lagacé, en accéléré.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.